Seigneur, merci pour cette réunion et pour la parole que nous allons partager ce soir. Et te demande de bénir Pasteur Tony et Isabelle. Et merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le corps de Christ. Et nous prions spécialement que tu édifie chacun, chacune ce soir par ta parole, Seigneur. Merci que tes brebis entendent ta voix et que tu nous parles dans nos vies, Seigneur. Combien de fois tu nous as parlé et nous te demandons de faire ce soir aussi. Remplis-nous de ton esprit, aide-nous à nous concentrer et entends ta voix. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
OK. Donc, Robert, je demande qu'il lit, parce qu'il lit bien en français aussi, Matthieu 5, 17 à 18. Et je veux parler des promesses de Dieu. Donc, les promesses de Dieu, on pourrait... et plutôt des bonnes promesses de Dieu, parce que Dieu, il a fait plein de promesses, de prophéties dans sa parole. Il y en a qui sont, on va dire, on ne peut pas dire pas bons, parce que c'est, voilà, mais il y en a qui sont plus graves, et il y en a qui sont très encourageants pour... et pour le peuple de Dieu surtout. Mais voilà, Robert va lire Matthieu 5, versets 17 à 18.
Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Ok. Là, Jésus parle de la loi et les prophètes. Maintenant, la loi, c'est un mot aussi qui est utilisé pour parler de la parole de Dieu. Mais si on veut parler de la loi de Moïse, Jésus il a accompli la loi de Moïse en mourant pour nous sur la croix. Mais on va aussi lire Matthieu 24, verset 35.
Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Ok, merci Robert. Donc, juste un mot qu'on avait lu dans la première, Matthieu 5, 17, il a dit, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ce qui est dans la loi et les prophètes va être accompli. Tout. Il n'a pas dit, peut-être 80%, 90%, ça va être accompli. Le reste, je le mets de côté. Vous allez voir. Voilà. Non, tout ce que Dieu a dit va être accompli. Contraste cela avec nous. Nous, on est capable, en tant qu'être humain avec des bouches, à faire des promesses. On peut faire des promesses à des amis ou à la famille. Et est-ce que toutes nos promesses sont accomplies ou ont été accomplies? Je pense que la réponse pour chacun de nous, c'est non. Pourquoi? on ne connaît pas l'avenir déjà. On n'est pas tout puissant. Donc, je pourrais avoir les meilleures intentions. Par exemple, un parent qui promet d'acheter un cadeau à son enfant. Mais le temps venu, il n'y a pas assez d'argent pour acheter le cadeau. Ou le stock est épuisé chez le magasin. La promesse tombe à terre. Il pourrait aussi être chez nous les hommes un changement d'avis. On pourrait donner une promesse, mais on change d'avis. On décide non, je ne veux plus faire ça. Malheureusement, parce que c'est décevant pour ceux qui reçoivent la promesse, probablement. Mais Dieu, il ne change pas d'avis, il ne ment pas. Juste Tite 1, verset 2. Et je le lis, c'est la version Darby que j'ai ici. C'est au milieu d'une phrase, mais vous allez comprendre. Dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Donc, Dieu ne peut pas mentir. Et il a promis quelque chose. La Bible dit en Ésaïe 46, verset 10, que Dieu connaît le début, il connaît la fin dès le début. Et donc, Dieu qui connaît la fin maintenant donne une promesse. Et il sait déjà si cette promesse allait se réaliser ou pas. Donc, s'il donnait une promesse, sachant que ça n'allait pas réaliser, ça fait de lui quoi? Un menteur. Ça ferait de lui un menteur. Mais Dieu ne donne pas de promesse qui sait qu'il ne va pas accomplir. J'ai dit ça à quelqu'un récemment. En fait, c'était ma grand-mère qui a 97 ans et qui habite à la maison. Elle voit presque personne. Elle voit ma mère qui va en Irlande, là, qui va la voir souvent. Elle parle avec ses filles au téléphone. Mais elle va très rarement maintenant à l'église parce que voilà, elle a 97 ans. C'est pas évident pour elle d'aller à l'église. Et je lui ai dit en partant l'autre jour, parce qu'elle m'a posé une question, et j'ai dit, tu te rappelles, Granny? J'ai dit, Granny, il faudrait qu'on cherche des chaises. On a sous-estimé ce soir. Hello. Juste une seconde. OK. Donc, j'avais dit à ma grand-mère, j'ai dit « Granny », donc c'est ce qu'on appelle nos grand-mères en Irlande du Nord. « Granny, tu te rappelles du jour où tu as accepté Jésus à 75 ans et tu te rappelles que tu as appelé ma mère en rentrant à la maison remplie de joie parce que tu avais demandé à Dieu « Est-ce que c'est vrai? Je suis sauvé? » Et il t'a confirmé ça dans ton cœur. Et tu étais plein d'assurance. Et elle dit oui avec un sourire. Son visage est transformé en sourire et elle dit oui. Et j'ai dit, bah, Dieu qui t'a donné cette assurance-là, est-ce qu'il t'a menti? Parce que lui, il sait si tu vas aller au ciel ou pas. Et il t'a donné de l'assurance. Si lui savait que non, tu n'allais pas aller au ciel. Comment Dieu, avec son intégrité, pourrait te mentir comme ça? Ça serait méchant. Et Dieu n'est pas méchant. Il t'aime, il t'a donné une assurance et tout ce que Dieu dit va s'accomplir. Et voilà, ça c'était juste le diable est connu comme étant le père des mensonges. Lui, il donne des promesses aussi. Il dit à Adam et Ève, vous n'allez pas mourir. Ou à Ève, il a dit. Il donne des promesses. Je n'ai pas étudié, mais voilà, c'est un menteur. Il peut donner une promesse ou une prophétie à quelqu'un dans le monde, et c'est faux. Et quelqu'un peut vivre comme esclave à cette fausse prophétie toute leur vie. Et c'était un mensonge. Et c'est dommage d'être esclave à ça. Voilà, si c'est le cas. Mais Dieu, non. Dieu, il n'est pas un faux prophète, il n'est pas le diable, et il n'est pas comme le diable, heureusement. Et il donne des promesses, il les accomplit. Philippiens 1, 6, il dit, « Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous. » Je suis persuadé, l'apôtre Paul dit, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera. Et pensons à quelques personnes dans la Bible ce soir à qui Dieu a donné une promesse ou des promesses et il les a accomplies. Mais il y a des choses à apprendre là-dedans. Première, Abraham. Je ne vais pas lire tous les versets, mais je pense qu'on est familier, on va dire, avec la vie d'Abraham. Mais Genèse 12. Ok. Yes. Genèse 12, Abraham appelé par Dieu de quitter. Bah, Dieu lui donne une promesse. Genèse 11, Genèse 12, il y a Genèse 15. En gros, Dieu a appelé Abraham à quitter sa patrie, d'aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et aussi, donc ça c'est un appel. Mais il lui a donné des promesses aussi. Je ferai de vos descendants comme les étoiles dans le ciel, plus nombreux que, je pense. Voilà, mais en tout cas, c'est beaucoup. Et Abraham a une femme, et il est vieux déjà, parce qu'il a quitté Genèse. Il a quitté Haran à 75 ans. Donc, c'est déjà pas mal. Hein? Sa femme avait 10 ans ou 9 ans de moins que lui. Donc, elle a 66, 65, 66. Lui, il a 75. Dieu commence à donner ses promesses-là. 25 ans, 25 années plus tard, ou 24 années plus tard, en tout cas, Sarah n'a pas encore eu de fils ou d'enfant par Abraham, par personne, bien sûr. Mais il y a cette question de temps. Et Dieu a donné cette promesse, mais il a vraiment attendu pour l'accomplir. Et pensons à nos appels et peut-être Dieu a donné, moi Dieu nous parle et il nous donne des promesses, mais il pourrait y avoir 25 ans qui passent et rien. Et ça devient encore moins possible que le début. Peut-être au début, ça semblait, oui, ça, possible, j'exagère, mais peut-être au début, ça pourrait. Abraham aurait pu dire, ouais, je suis vieux, ma femme est stérile, elle n'enfante pas, on est déjà mariés depuis, on ne sait pas combien d'années, mais pas encore d'enfant, peut-être c'est possible, peut-être il a entendu parler des personnes à cet âge-là. Je ne sais pas, moi je n'entends pas trop de femmes à 65 ans qui enfante, mais peut-être ça arrive. Mais voilà, pas trop. Ok, oui, mais non, parlons pas de ça. Mais Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Priscilla a parlé de mère porteuse. Bah, malheureusement, en attendant cette promesse, qu'est-ce qu'Abraham s'est dit ou qu'est-ce que lui et sa femme se sont dit? Ah, peut-être Dieu a donné une promesse, mais peut-être il ne va pas l'accomplir si nous, on ne s'implique pas. Peut-être c'est à nous de faire marcher la promesse, de faire l'accomplissement de la promesse. Parce que ça, on a essayé, nous, mais ça ne vient pas. Donc, peut-être qu'on peut faire un petit raccourci. Une mère porteuse, Agar, cet Égyptien qu'on a retrouvé en Égypte quand on s'est enfui là-bas et finalement le pharaon nous a donné des serviteurs et des servantes. Ben voilà, il y a une servante qui s'appelle Agar. Et comme les traditions du temps, apparemment une femme, elle enfonce sur les genoux de la dame de la maison et ils disent que voilà, c'est son fils. Mais voilà, ils ont eu ce fils et je crois qu'Abraham, il avait dans les 85-86 ans. Donc 10 ans après la promesse, 10 ans après en tout cas qu'ils ont quitté Haran, il a un fils qui s'appelle Ishmaël. Peut-être Ibrahim pensait que voilà l'accomplissement de la promesse, c'est Ishmaël. Et je pense qu'il pensait ça parce que il y a un moment où Dieu revient vers Abraham pour lui parler d'Isaac qui allait venir et Abraham il dit mais qu'Ishmaël vit devant toi. En gros, voilà, c'est déjà bon, Dieu. Regarde, on a fait quelque chose et ça a marché. C'est pas lui l'accomplissement. Et ça se peut que Dieu donne une promesse et on se trompe de l'accomplissement. On pense que quelque chose de moins, comment dire, de moins miraculeux, moins précis soit l'accomplissement. On commence à interpréter la promesse. Voilà, quoi? Et aider Dieu, voilà. Et ça devient une promesse naturellement accomplie par nos efforts. Et les gens se mettent la pression hein, pour accomplir les promesses que Dieu a données. Les gens pensent, et à un moment donné, parce que ça tarde, ils commencent à se sentir responsable pour accomplir parce qu'en fait ils ne croient pas Dieu mais parce que ça devient incroyable quelque part mais ça ne s'est pas arrivé comme je pensais que ça allait arriver. Moi je pensais voilà, allez hop, Dieu donne une promesse, une année plus tard il y a un fils et on commence à multiplier, voilà, comme les étoiles. Et non. Et donc, voilà, il y a cette question de temps. Et c'est ce qu'on voit dans ça. Et on voit aussi que 25 ans plus tard, il y a Isaac qui vient finalement. Et c'est lui la semence promise. Et c'est lui que Dieu avait promis. Et c'est Dieu qui l'a donné. Et maintenant, Dieu, il demande à Abraham, quoi, 15 ans plus tard, ou quelques années, en tout cas, et je crois que c'est environ 15 ans, mais peut-être je me trompe de la date exacte, à sacrifier, peut-être 17 ans plus tard, offre ton fils comme un sacrifice. Donc, on voit que Dieu n'est pas du tout désécurisé par rapport à l'accomplissement de ses promesses. Voilà, c'est une chose qui peut nous faire reposer. C'est que, peu importe, Dieu a promis, ça va arriver. Et on n'a pas à s'inquiéter. Voilà, Dieu avait un plan là-dedans. Mais on voit ça, en tout cas, je donne un verset, Genèse 21, verset 1 à 2. je le lis. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc nous, on ne sait pas les temps fixés de Dieu, mais il y a un temps fixé pour chaque promesse de Dieu. Et ça va se réaliser. Deuxième exemple, c'est Joseph, mais je veux parler aussi de Jacob. Dieu avait donné une promesse à Joseph, je crois que c'est Genèse 37, ou entre 37 et 39. Dieu a donné une promesse, des rêves à Joseph, deux rêves dans lesquels sa famille, inclus ses parents, se prosternaient devant Joseph. Et son père envoie chez Jacob, qui avait déjà entendu la voix de Dieu, que lui, il a quand même donné un rapproche à Joseph. Il dit, parle pas comme ça. Mais la Bible dit que Jacob a gardé ces choses dans son cœur. Donc, quand un père voit quelque chose de surnaturel chez son enfant, ça lui a touché pour qu'il le garde dans son cœur. Et qu'est-ce qui arrive? Joseph est mort aux yeux de Jacob. Une bête sauvage l'a mangé, l'a tué. Maintenant, Jacob, il fait face à une crise de sa foi, quelque part. Et on voit que ça ne s'est pas très bien passé pour lui, cette épreuve, parce qu'il était amer. Et apparemment, jusqu'au moment où il a vu les wagons, plus tard, venant de Joseph en Égypte, et c'est des années plus tard, et plus que 10 ans plus tard, je crois 13 ans plus tard, mais je ne suis pas certain, il est déçu. Dieu a donné une promesse à mon fils. Et j'ai vu quelque chose là-dedans. Et je l'ai gardé dans mon cœur. Et maintenant, ouais, comment il peut interpréter ça? Soit tu penses que la promesse, oui, ça a peut-être un accomplissement spirituel, dans les temps à venir, dans l'éternité, peut-être on va retrouver mon fils au ciel et il y a quelque chose qui va se passer. Ou bien, donc, on spiritualise des promesses de Dieu parce que ça semble non raisonnable de croire que littéralement ça va se passer comme ça a été dit. On pourrait dire, bah, ça a été accompli, mais peut-être je l'ai loupé. Voilà. J'ai pas vu la chose, mais ça s'est passé, ok. Bah. Mais mon fils est mort et il pleure. Voilà. Et il est amer. Ou on pourrait penser, Dieu a donné une promesse, oui, mais il y a une bête sauvage qui a tout gâché, qui a mangé mon fils, parce que c'est ce qu'il avait présumé s'est passé avec son fils. Donc, une bête sauvage peut empêcher Dieu à accomplir ses promesses. Il y en a qui pensent que le diable peut empêcher Dieu à accomplir ses promesses. Parce que le diable, quand même, les bêtes sauvages peuvent être puissants et féroces, mais qui de plus puissant que le diable, dans le côté malin, des ennemis de Dieu, l'ennemi juré, le grand ennemi de Dieu, on pourrait penser, il a tout. Bah, est-ce qu'on va le penser un jour sur la terre que le diable a gagné et que Dieu a perdu? Quand l'Antichrist va régner avec le faux prophète et la bête. Le diable va être en contrôle sur la planète Terre. Est-ce que Dieu a échoué dans sa promesse? Dieu a promis ça, en fait. Dieu a prophétisé déjà. Mais aux yeux du monde qui ne croit pas ou connaît pas la parole de Dieu, ils peuvent penser que Dieu est perdant. La foi, les Bibles sont tous brûlées peut-être. Plus accès à une Bible possible. S'il faut un truc pour acheter, voilà, ou vendre, et tout est contrôlé quoi dans cette époque-là. Et le diable, il est quelqu'un qui est désécurisé. Dieu n'est pas désécurisé parce qu'il permet ça, il va permettre ça. Il va permettre que, et il permet déjà que son peuple soit décapité, persécuté, mis en prison, torturé. Dieu n'est pas désécurisé par tout ça. Toutes ces œuvres du diable, et Dieu le permet. Mais on dirait que il est relax, quoi. Il n'est pas en panique. Et même, je dirais, OK, il n'aime pas, il compatit avec nos souffrances. Il compatit, c'est sûr qu'il compatit avec nos souffrances et toute larme qui sort de nos yeux. Mais il est quand même joyeux malgré ça, parce qu'il sait... que ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus a souffert la croix pour la joie qui était mise devant lui. Je ne sais pas comment c'est écrit en français, mais je présume. Mais il avait ses yeux fixés sur la joie à venir. Et donc, il a supporté les souffrances. Et Dieu, il souffre quand son peuple souffre. Mais il le supporte avec une joie, une attente joyeuse. Hébreux 12, 12, ouais. OK, je ne le vois pas. Ah, en vue de la joie qui lui était réservée. Voilà, Jésus a supporté la croix. On va aller, mais juste revenons à Jacob et Joseph. Est-ce que la bête, une bête sauvage avait empêché la promesse? Non, Dieu avait promis. Et Joseph, par contre, bon, il vivait d'une autre perspective la situation, mais je pense que lui, en tout cas, la Bible dit que la parole de Dieu l'a éprouvé, l'a tried him. L'a éprouvé comme dans une fournaise, l'or est éprouvé, purifié. Et que voilà, Dieu faisait un travail dans son cœur, parce que Joseph aussi avait entendu, reçu ses promesses. Et voilà, ça s'est accompli très rapidement même. Il semblait de pire en pire, de plus en plus loin de la promesse. Et dans un jour, ou dans une séquence d'événements, Dieu l'a accompli et c'était très clair. Là, il n'y a pas de doute. Maintenant, on lit la promesse donnée à Joseph et on voit l'histoire après et on dit, voilà, c'était, ça s'est passé comme promis. Troisième, Salomon. C'est Israël, mais c'est Salomon qui dit la chose. C'est 1 roi 8, verset 56 dans la version Darby. Donc, 1 roi 8, verset 56. Et c'est le contexte, c'est le temple. Le temple vient d'être construit. Le temple que, d'ailleurs, Dieu avait promis à David que son fils allait le construire, Salomon. Et voilà, c'est construit. Là, c'est construit. Mais Salomon, dans ce qu'il dit ici, il parle aussi de tout ce que Dieu avait dit à la nation d'Israël depuis Abraham et avant. Mais béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Tout ce qu'il avait dit. Pas un mot de toute sa bonne parole qu'il prononça par Moïse, son serviteur, n'est tombé à terre. Pas un mot est tombé à terre. Dieu avait dit à Moïse, tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Ça s'est réalisé d'une manière extrêmement miraculeuse. Il avait dit qu'ils allaient adorer sur la montagne. Oui, ils l'ont fait. Ils ont traversé une mer pour le faire. Il avait dit qu'ils allaient aller en Canaan. Et ils sont allés. Et Dieu a chassé des armées plus puissantes qu'eux de ce lieu qui coulait de miel et de lait. Voilà, Dieu avait donné des promesses et il avait donné aussi à David, et pas un mot tombé à terre. Donc tout ce que Dieu dit. Pierre, 4e. Matthieu 4, 19. Peut-être, oui, tu peux.
Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
Voilà, ça c'est l'appel de Pierre. Et moi je pense que c'est une deuxième occasion, il dit la même chose. Oui, il dit un peu différemment à Pierre, c'est Luc 5, verset 10. Et c'est juste après qu'ils ont fait la pêche miraculeuse. Ils ont travaillé toute la nuit, mais Jésus dit, jetez vos filets du côté, ce côté. Pierre, il dit, mais on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais à ta parole, je le fais. Et Jésus l'avait promis, il a dit, et tu vas trouver. C'est ça, non? Jetez vos filets et vous trouverez. Qu'est-ce que c'est? Luc 5. C'est où le début du chapitre? Ah, là. Voilà. Ah, ok. Ouais, là, il n'a pas dit là. Et c'est peut-être en Jean 21 où il dit, vous trouverez. Mais en tout cas, jetez vos filets. Il l'a fait. Et ils ont eu cette pêche miraculeuse. Même le filet commençait à se casser. Ouais. Qu'il y avait tellement de poissons. Et verset 10...
Et il en était de même que de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. »
Oui, moi je trouve chouette, parce que nous quand on pense pêcheur d'hommes, on pense à quelqu'un avec une canne à pêche, qui pêche voilà, dans la rivière ou dans le lac. Mais... dans le contexte, ce n'était pas une canne à pêche. C'était un filet rempli de poissons. Et je trouve drôle que Pierre, plus tard, il y a deux fois, une fois Pierre a prêché, 3000 personnes se sont converties. Une autre fois, 5000 personnes. Pierre, il a jeté des filets. Jésus a accompli cette parole, mais de manière très précise. Et voilà, mais Pierre avait suivi Jésus Oui, ils ont eu des belles expériences. Jésus les avait envoyés deux par deux. Ils sont revenus avec des témoignages. Mais après, Jésus est mort et tout a coulé pour eux. Ce n'est pas le bon mot, couler. Écoulé. Voilà. Semblant. Et Jésus ressuscite, il rencontre Pierre, il rencontre Jean. Même Jean 21, il y a encore une pêche miraculeuse de poissons. Donc il n'y a pas encore le pêcheur d'hommes là. Et je pense que Pierre est un peu découragé parce que voilà, il a échoué. Et Jésus est parti, quoi. C'était chouette quand Jésus était là, mais maintenant, on doit se débrouiller nous-mêmes. Et peut-être qu'ils avaient besoin d'argent, donc ils sont allés manger pour manger aussi. Donc voilà, et Jésus les rencontre encore une fois. Mais Jésus l'a accompli, juste pour dire, Jésus l'a accompli, malgré Pierre. Malgré les bêtises que Pierre a dit parfois, cette parole a été accomplie dans sa vie. Je pense qu'on peut tous probablement donner des exemples personnels. Il y a aussi des exemples dans l'histoire de l'Église, mais où Dieu parle et il donne des promesses. Moi, je me rappelle, juste pour un exemple personnel, j'étais adolescent. Et j'ai passé par une saison très ténébreuse spirituellement ou difficile spirituellement. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je ne voyais pas Dieu. Très peu. Des moments, des petites flashs, comme un flash d'une caméra. Je le voyais. Mais après, c'était noir encore. Ça a duré peut-être un jour ou deux heures. Pouf. Et c'était une période dans mon adolescence. Et j'ai aucun désir de passer par un moment comme ça encore. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Il y a une psaume, j'ai lu récemment. Si vous lisez le psaume, c'est très déprimant. Ça pourrait être déprimant. C'est le psaume 88 ou 88. Il y a la plupart des psaumes qui ont un côté négatif ou plainte. À la fin, c'est joyeux, c'est Dieu est venu, il m'a secouru, voilà, je suis en haut de la montagne de nouveau. Mais ce psaume, il finit, il est toujours dans le noir. Et des fois, c'est comme ça. Entre le temps où Dieu donne la promesse et le temps où Dieu l'accomplit, des fois, il y a la noire profonde, la nuit, on ne voit rien. Des fois, c'est vraiment, il n'y a rien à voir qui nous encourage. Et c'est le cas dans ce psaume 88. Mais moi, j'ai passé par cette saison et un jour, c'était entre 17 ans et 21 ans cette saison. Et il y avait un jour où j'étais chez moi le matin avant d'aller à l'école. J'ai ouvert ma Bible et je lisais je faisais ma lecture que je faisais progressive dans la Bible. Et j'étais en Job et je lisais Job 23, verset 10. Et je vais traduire de ma tête en anglais, mais en français. En gros, dans le contexte des deux versets précédents, Job, il cherche Dieu, mais il ne le trouve pas. Il dit, je regarde à droite et je ne te vois pas. Je regarde à gauche où tu travailles, mais je ne te perçois pas. Et puis, verset 10, il dit, mais lui, il connaît mon chemin. Job 23, 10.
9, 10, par là.
Attendez. Moi, je vais le lire ici. Darby, probablement c'est plus proche de l'original. Job 23, 10. Mais il connaît la voix que je suis. Donc, il connaît la voix que je suis. Moi, je ne connais pas sa voix, lui. Voilà, verset 8. Voici, je reviens en arrière. Voici, je vais en avant, mais il n'y est pas. Et en arrière, mais je ne l'aperçois pas. À gauche, quand il opère, il y opère, mais je ne le discerne pas. Il se cache à droite et je ne le vois pas. Verset 10. Mais il connaît la voie que je suis. Il m'éprouve. Je sortirai comme de l'or. Et en anglais, dans la version que j'ai eue, quand il m'a éprouvé, quand il m'a fini de faire l'épreuve, je vais sortir comme de l'or. Donc, il est en train de travailler. Ça m'a touché. Dieu est en train de travailler dans ma vie et ça va finir cette saison. C'est ça que ça m'a... Et aussi, ça m'a encouragé de voir que même Job a vécu des choses similaires. Parce que je pensais que c'était... Personne vivait ça, tu vois. C'est pas normal que tu vis ça. Mais non, peut-être c'était normal. C'est une épreuve qui venait de Dieu. Bien sûr, peut-être c'était des mauvaises manières de penser. Les causes, peut-être c'était en moi de mon aveuglement. Mais Dieu l'a permis, il opérait et il éprouvait. Et vraiment, dans cette épreuve, il y avait des moments où je pensais, c'est impossible que ça aille mieux. Je pensais que ça allait de pire en pire et que je ne voyais pas de possibilité que ça change. Ça semblait impossible. Mais c'était une grande leçon pour moi dans ma vie que non, ne te crois pas, Paul. Ne crois pas à tes sentiments. Ne crois pas à ta perception. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Parce que tu as tort dans ton analyse. Et il m'éprouve, je sortirai. Je sortirai comme de l'or. Et vraiment, ça s'est arrivé. Et voilà, même à l'année près où j'attendais que ça allait arriver. C'est pas que. Il y avait une chose qui s'est passée qui m'a donné un indice de durée de cette épreuve. Et j'ai réalisé une fois que j'étais sorti de l'eau, j'ai dit, mais ça tombe au moment où je... Voilà, je ne voulais pas expliquer, mais Dieu m'avait dit 4 ans un jour. Et quand j'ai demandé combien de temps ça va durer, c'est bizarre, je n'ai pas toujours des choses comme ça qui m'arrivent, mais j'avais une réponse, 4 ans. Et c'était 4 ans plus tard quand je suis descendu dans le sud de la France et j'étais dans une église, une école biblique où je vivais un réveil. Je me suis retrouvé dans un réveil, et un réveil personnel, et un réveil corporel dans l'église et personnellement en moi. Et je me suis dit, waouh, c'est juste, je pensais que c'était impossible. Et un autre verset qui était très fort pour moi en ce moment, c'était « Toutes choses concourent pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et je voyais que même quand je pensais que toutes choses concouraient pour le mal ou pour mon mal, c'était pour le bien en fait. Et c'était « Waouh !» Ce verset était vraiment fort dans mon cœur. Et là, je veux juste donner pour terminer, parce qu'il faut terminer bientôt. On va terminer ce soir, ne vous inquiétez pas, avant minuit. J'espère que ça vient de Dieu. Là. Ok, non, une liste, j'ai fait une liste de promesses pour nous les enfants de Dieu. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme sauveur, il y a des promesses dans la Bible qui nous sont propres, qui nous sont propres. Il nous appartient, ces promesses-là. Et voilà. Il y a d'autres promesses pour ceux qui ne reçoivent pas Christ. Mais je ne veux pas y parler ce soir, mais c'est des promesses. Et aucune parole, pas un seul mot de ce que Dieu a promis va tomber à terre. Mais promesses pour nous. On a déjà dit, Romains 8, 28, toutes choses concourent pour le bien. Je veux aller vite, mais je sais que vous allez vouloir écrire toutes les références, donc j'hésite. Pas tout le monde. Mais vous me permettez d'aller vite. Juste penser à ce qu'on dit. Si vous voulez, après je peux vous donner les références. Mais juste à penser d'abord à ces choses. Rien ne peut nous séparer de son amour. Jésus nous a donné ses promesses. Romains 8, 37 à 39. Ok, je vais vous donner la référence. Rien ne peut nous séparer de son amour. Ça, c'est une belle promesse. Je suis aimé par Dieu. Je suis gracié dans le bien-aimé. Éphésiens 1, verset 6. Littéralement dans le grec. Gracié dans le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est qui? C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous sommes en lui. Et nous sommes graciés, favorisés en lui. Et personne et rien ne peut nous séparer de son amour. Donc ça, c'est pas mal comme promesse. Personne ne nous ravira de sa main. Jean 10, 28 à 29. Oui, dans Romains 8, il y a des persécutions mentionnées. Nous sommes comptés comme des brebis pour la boucherie, c'est ça?
L'abattoir.
Mais rien ne peut nous séparer de son amour, même la mort. Et personne ne peut nous ravir de sa main. Okay. Nous sommes scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Scellé avec le Saint-Esprit, Éphésiens 1, 13 à 14 et 4, verset 30. Éphésiens 1, 13 à 14 et 4, verset 30. Nous sommes scellés avec le Saint-Esprit. Il y a le sceau du Saint-Esprit sur nous jusqu'au jour de la rédemption. Pas jusqu'à la prochaine fois que vous péchez. Ce n'est pas marqué. C'est marqué jusqu'au jour de la rédemption. Et il n'a pas dit, vous êtes scellés, après on enlève le sceau et on remet le sceau et on enlève le sceau et on remet. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Il n'y a pas d'espace entre eux. Et ça, c'est une belle promesse. Je veux juste croire à cette promesse maintenant, mélanger la foi avec cette promesse. Je suis scellé, peu importe. Imagine, on vit dans des temps bizarres. Un jour, je pourrais être couché sous un pont. Je ne sais pas, j'espère jamais. Mais je pourrais être couché sous un pont et juste me sceller avec le Saint-Esprit ou dans une prison quelque part. Scellé pour notre foi, j'espère, si c'est le cas. Mais ça pourrait être aussi ne pas être pour notre foi, pour une bêtise faite, un moment de manque de concentration, ça suffit des fois. Mais scellé avec le Saint-Esprit, il y a un jour de rédemption qui arrive et moi je suis scellé jusqu'à ce jour-là. C'est quelque chose. Jésus reviendra, ça va avec. Jésus va revenir. Apocalypse 22, 20, pour, entre autres, mais j'ai seulement noté celui-là. Il y a l'enlèvement qui s'approche, l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Donc si on n'est pas déjà mort, Ben, même si on est mort, on va faire partie de ça. Les enfants de Dieu. L'enlèvement de l'Église. La résurrection. Si on est mort maintenant, si notre corps physique est mort, et même si c'est brûlé dans le feu ou noyé dans l'océan, et tous les poissons nous ont mangé, donc notre ADN est séparé dans l'écosystème écologique, voilà, et ça finit dans une boîte de thon, mon ADN. Le corps, il est mort, il a un corps terrestre, mais il va ressusciter avec un corps céleste. Ce qui est semé n'est pas ce qui ressuscite. Cette immortalité, je ne peux pas le dire en français, c'est 1 Corinthiens 15 en gros. 1 Corinthiens 15 et verset 53, c'est pas mal, mais voilà, on se revêtira de l'immortalité. Et ça nous attend, mes amis. Ça, c'est pas mal, hein? Est-ce que ce n'est pas glorieux et la sagesse, la folie sage de Dieu, que notre moment le plus proche en général à l'éternité, c'est notre moment le plus loin par la vue de cette corps glorieuse? Vous comprenez ce que j'ai dit? Au moins ce que on soit dans le, au moins ce que Thiago, le fils de Priscilla et Christian, et qu'il soit sauvé et qu'il est dans le meilleur de ses années. Mais je pense que dès la naissance, on commence à perdre de la force par rapport à notre taille. Je pense que les enfants de 2 ans sont les plus forts vis-à-vis de leur taille. Ils courent partout pendant toute la journée, ils ne se fatiguent pas. J'ai lu ça, que si cet enfant avait un corps comme le nôtre, il serait champion olympique. J'ai entendu qu'il y a un parallèle, voilà. Peut-être j'ai mal entendu, mais ça semble logique pour moi. Donc on est toujours en train de périr quelque part, dépérir notre corps. Je ne connais pas en français. The outer man perishes. L'homme extérieur dépérit. Et l'homme intérieur renouvelé. Voilà. Mais cet homme extérieur, il dépérit. Il y a des choses, il y a des connexions qui se déconnectent dans la tête. Ça peut arriver. Mais on va vers le bas, mais en fait, on va vers le haut. Je ne sais pas comment le dire. Le nouvel corps, ça va être glorieux. Mais peut-être ceux qui sont dans leur lit d'hôpital, 90 ans, mais enfants de Dieu, ne peuvent pas bouger beaucoup, a besoin d'aide pour aller aux toilettes. Même, voilà, rentrons pas dans les détails, mais lui, comme ça, va se revêtir d'un corps glorieux, comme jamais vu. Voilà, je vais vite parce que là, je traîne. Pas trop, mais je traîne un peu quand même. La vie éternelle, nous avons la vie éternelle. Donc, non seulement résurrection avec un corps glorieux, mais un corps qui va durer à jamais. Éternel, Tite 1, 2, Jean 3, 16. Voilà, fameux. La vie éternelle. La vie éternelle. Dans un corps glorieux. Pas dans un corps où on doit aller au docteur de plus en plus avec les années. Ressemblance à Christ. Nous allons nous ressembler à Christ. Romains 8, 29 et 1 Jean 3, verset 2. nous serons comme lui. Il y aura, nous serons dans et il y aura et nous serons dedans des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Apocalypse 21:1. Nous attendons une ville glorieuse. Apocalypse 21, verset 1. Ah, une ville glorieuse dont l'architecte est Dieu et le constructeur est Dieu. Ça, c'est quelque chose. Regardons la nature que Dieu a créée ici. C'est beau. Moi, je préfère regarder les montagnes, les Alpes, que regarder des bâtiments que les hommes ont construits. En général, je ne connais pas d'exception. Voilà. On grimpe, des gens comme Robert grimpent des montagnes juste pour regarder la nature que Dieu a créée. Et Dieu, il est non seulement créateur d'une terre avec son écologie et organique des êtres, mais il est constructeur d'une ville. Il est architecte aussi. L'architecte des architectes, c'est Dieu. Et cette ville, apparemment, selon les descriptifs, est très belle. On va voir cette ville et on va être émerveillé. Et en plus, il est très solide, hein? Des pierres précieuses comme fondation, etc. De l'or, des roues. Donc, l'infrastructure de cette ville va être quelque chose. Même pas de lampes et ni de soleil, parce que lui, il va être la lumière. Voilà. Mais j'imagine que ça va briller, ça va juste, voilà. Dieu, on ne sait pas, l'œil n'a pas vu, ni aurait entendu. Donc, une place préparée pour nous, Jean 14, 2. C'est une promesse de Dieu. Jésus a donné cette promesse à ses disciples, mais ça s'applique à nous. Un héritage éternel, Hébreux 9, 15. Donc, il y a un héritage aussi, pas juste la vie éternelle, pas juste une belle ville, pas juste une nouvelle terre, un nouveau ciel, pas juste une ressemblance à Christ en nous, mais un héritage dans ce lieu-là. Quelque chose qui ne sera pas là, promise par Dieu. La mort, c'est fini. Plus de mort. Apocalypse 21.4, les prochains quatre points, c'est le même verset. Apocalypse 21.4. Pas de mort, plus de mort, plus de deuil. On va jamais... Voilà, imagine, nous, on va jamais... Il y a des deuils quand quelqu'un quitte un pays, il va loin, ou une relation se brise, il y a un deuil. Mais nous, on n'aura pas de... Ou quelqu'un meurt, ça c'est un deuil... On ne va plus voir la personne ici-bas. Mais ici, plus de deuil. On va être ensemble et on ne va jamais faire la deuil de nos amis, de notre famille, de nos... Voilà. Toujours. Pas juste moi éternel, mais ceux qui sont avec moi. Mes bien-aimés. Le corps de Christ. Plus d'au revoir quelque part. Bon, peut-être il y aura des au revoir. Ce n'est pas marqué parce qu'on se déplace dans cette ville. Donc, laisse tomber. Enlève ça de l'enregistrement, s'il vous plaît. Non. Non. Ouais, il n'y a pas de regret. Ouais, en tout cas, les larmes aussi, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. En tout cas, juste avant de rentrer là-dedans. Plus de cris. Ah! Il n'y aura pas ça. Je ne vais pas... Voilà, plus de douleur va avec. Je ne vais pas marcher sur un verre, un bout de verre, ou tomber d'une échelle. Plus de douleur, plus de cris. Ça, c'est quelque chose à espérer. Ici, on n'est pas sûr. On va sûrement vivre des douleurs et des cris même.
Il y en a qui vont perdre leur boulot.
Merci. Je ne sais pas si c'est une prophétie ou c'est pour qui. C'est pour qui. Non, mais...
Les infirmiers, les docteurs.
Ah oui, oui, ok, j'ai compris. Ok, oui, il y aura plus d'infirmières. Plus d'infirmières, Christian. Plus de... Bah, Violette, tu es déjà à la retraite. Letty, ma femme, plus d'aide-soignante. Plus de docteur, Pablo. voilà, yeah, c'est, ils auraient autre chose à faire. Ils auraient autre chose à faire. La justice, on est vers la fin, là, on s'approche à la fin. Il y aura la justice. Ça va? On peut continuer?
La justice.
2 Pierre 3, 13, ça mérite une lecture. Non, là on a fini avec les choses qui sont plus. Là on rentre dans ce qui est. On a 4 points de plus. 2 Pierre 3, 13. C'est une caractéristique dans cet lieu éternel qui nous est réservé.
Où la justice habite.
Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
Wow. Parce que l'injustice dans le monde, ça nous attriste, n'est-ce pas? Qui n'est pas frustré parfois ou attristé par l'injustice dans ce monde? Il y en a de l'injustice dans ce monde. Les hommes qui dirigent le monde, peu importe qui c'est, parce que la nature pécheresse... Maintenant, Dieu peut aussi mettre un de ses enfants dans une position de leadership dans le monde par sa souveraineté. Ou quelqu'un qui craint Dieu et Dieu peut... Il agit quand même par les dirigeants de ce monde, même ceux qui ne sont pas sauvés, pour exercer la justice. C'est écrit en Romains 14. Les autorités sont de Dieu. Mais on voit quand même, malgré tout, des injustices et dans ce monde. Et là, il n'y aura plus d'injustice. Il y aura la justice. Donc, qui dirige comme Dieu? Les gens, quand Salomon était roi, ils étaient joyeux, ses serviteurs étaient joyeux. La reine de Sheba a vu, ah mais quelle sagesse, tes serviteurs. Elle a remarqué qu'il y avait une joie dans et une prospérité remarquable parce qu'il y avait une justice qui se faisait par le roi Salomon. David aussi, le peuple l'aimait beaucoup, il se réjouissait à ses décisions, à des bonnes décisions. Et ça, c'est juste, c'est la justice. Ça amène une joie quand il y a la justice. Et une des caractéristiques du millénium, qui, nous, on parle de après le millénium prophétisé dans la Bible, je n'ai pas parlé du millénium ici. Il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter à cette liste. Mais c'est une des caractéristiques quand Jésus règne à Jérusalem, c'est la justice. Et la joie, ces deux caractéristiques qui vont ensemble du millénium, le règne de Jésus pendant 1000 ans. La justice et la joie. Les amis américains, on a vécu en Amérique, des gens se rappellent des jours où fermés, on pouvait laisser ouverte notre porte et à la maison, partir pour une journée de travail, revenir. Personne ne va rentrer, personne ne va rien faire. C'est aussi c'est quelque chose qui peut exister dans un pays qui est béni. Ça peut être aussi à cause de la crainte que les gens obéissent aux lois. Mais voilà, il y a une sécurité, il y a une juste. Là où il y a la justice, il y a la sécurité aussi. Voilà, Jésus, roi à jamais. Apocalypse 11, 15. et 22, 5. Jésus va être le roi à jamais. Donc, le bon leadership à jamais. Plus de corruption, plus d'injustice depuis... Voilà. Quelqu'un qui nous aime et qui sait quoi faire et quand le faire et quoi dire et quand le dire et quoi décider. Toujours parfaitement. Ça, c'est à espérer. C'est quelque chose à to look forward to. Quoi, à se réjouir. Le voir face à face. On va voir Jésus face à face. Il a promis. Ça va s'accomplir. Chacun de nous va voir Jésus face à face. C'est un événement qui va se passer. Pas une seule parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est ça que tu as lu au début? Voilà, on va le voir face à face. J'ai 4 versets. 1 Corinthiens 13, 12. 1 Jean 3, 2, Apocalypse 1, 7 et Apocalypse 22, 4. OK. 1 Corinthiens 13, 12, 1 Jean 3, 2, Apocalypse 1, 7 et 22, verset 4. Et dernier point pour cette liste, nous serons avec lui pour toujours. Voilà. Les disciples, quand Jésus est parti, ils étaient tellement tristes. Parce que être avec Jésus, c'est magnifique, quoi. Mais c'est l'inverse qui va nous arriver. Nous, on n'a pas encore vu, mais on le croit. Et on va être avec lui, mais pour toujours. Avec eux aussi, mais quelque chose à espérer. 1 Thessaloniciens 4, 17 et Apocalypse 21, verset 3. Et en conclusion, David, 2 Samuel 7, 29. Robert, je te demande de nous lire ça.
Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement.
Amen. Donc, David est en train de répéter la promesse qu'il vient de recevoir de Dieu et il dit, car c'est toi qui l'as dit, c'est ça que tu as lu?
Car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé.
Car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé. Et voilà, Dieu a parlé. Toutes ces choses qu'on a lues, qu'on a dit, Dieu nous a parlé. Et la réaction de David, en gros, ce que je vois dans ce chapitre, c'est David, en gros, il est en train de dire, écoute, parce que dans des versets précédents, ce que je vois, ça ne sent pas à ça. Mais tu l'as dit, donc je le crois. Et ça semble trop bon pour être vrai. Mais Seigneur, si tu l'as dit, je dis Amen. Et on peut dire comme David, on peut dire ça par rapport aux promesses de Dieu. Ça semble trop bien par rapport à notre existence actuelle et notre vécu sur la terre. Mais c'est promis par Dieu. Et tout ce que Dieu a promis dans le passé, c'est réalisé. Donc, tout ce qu'il a promis qui n'est pas encore réalisé, ça va se réaliser. Le diable va avoir ses victoires semblantes dans ce monde et peut-être dans nos vies, on espère pas beaucoup, mais parfois Dieu éprouve notre foi et il permet des choses qui nous font souffrir. Mais on peut se réjouir. Moi, je veux juste mettre cette analogie dans la tête. Ça vient de Colossiens 1, verset 11. Je crois que c'est verset 11. C'est la patience et la... en français. Macrothumia. C'est upomone et macrothumia en grec. La patience et la... Et l'autre mot, c'est plutôt la patience avec les gens. La patience dans les circonstances et la patience avec les gens. Avec... un des mots, c'est joie. Donc, patience mélange avec joie. Et comment je peux avoir patience avec... Oui, mais avec joie, quand je sais la fin de l'histoire, je peux être patient avec joie. Imagine, il y a la Coupe du Monde, on va utiliser ça comme exemple. Non, je ne vais pas parler de l'Argentine parce qu'il y a... C'est trop sensible. Mais parlons de aujourd'hui, il y a le Japon qui a gagné 2-1 contre les Allemands. Je connais le résultat. En fait, j'ai connu le résultat avant de voir les... J'ai regardé le petit résumé de 3 ou 5 minutes sur RTS. J'ai vu le résultat et j'ai dit « Waouh !» Donc, j'avais hâte de voir comment ça allait se réaliser. Donc, j'ai vu un peu ces Allemands qui ont marqué en premier. Mais il pourrait y avoir un match comme ça. Mais c'est ton équipe. Moi, je ne suis pas trop attaché au Japon. Donc, ça ne m'a pas touché beaucoup. Mais si c'était l'Irlande du Nord contre les Allemands, j'aurais sauté de joie. Mais voilà, c'est juste un match de foot. On s'en fout un peu. Mais... C'est comme ça, tu connais le résultat. Et même si ton équipe est à 5-1 pour l'autre équipe avec 10 minutes qui restent, et normalement si tu avais regardé en direct, tu serais découragé, tu aurais même éteint la télé parce que tu ne veux pas voir le dernier siffle. Et tu reviens 5 minutes plus tard. Et c'est 5-5. Maintenant, tout change. Mais si tu connais d'avance que ton équipe a gagné 6-5, tu vas regarder ça avec joie. Ah, les Allemands, ils ont encore marqué. Allemands, pardon les Allemands, j'ai rien contre vous. Mais voilà, tu vas voir les défaites apparentes de ton équipe avec joie parce que tu sais qu'ils vont gagner. Au finish. Et nous, on peut avoir une attitude comme ça. Maintenant, je ne dis pas que notre vie est remplie de défaites, ce n'est pas, heureusement, merci Dieu. Il y a des victoires préparées pour nous. Il nous fait triompher toujours en Jésus-Christ. Mais il y a des semblants défaites par la vue dans la vie. Mais à cause des promesses de Dieu, nous, on peut se réjouir toujours. On a cause à se réjouir toujours grâce aux promesses de Dieu. Dieu ne nous a pas tout caché. Il a caché quand même des choses. Il y a beaucoup mieux que ce qu'on a dit ce soir. Ça va être beaucoup mieux que ce qu'on comprend. Comme la promesse à Joseph. C'était mieux qu'il allait penser, il allait imaginer. Voilà, sa promesse était petite. C'est tes frères et tes parents qui vont se prosterner devant toi. Dieu ne lui a pas dit, tu vas être président ou premier ministre de l'Égypte et vous allez avoir un lieu là-bas consacré pour vous et vos troupeaux et vous allez être vraiment prospère et multiplié dans ce pays. C'était juste... Voilà, une petite promesse, mais la réalisation était énorme. Donc, réjouissons-nous dans les promesses de Dieu. Et voilà, que Dieu vous bénisse.